Vous écoutez
RMC.
RMC.
On essaye d'avoir plusieurs flèches à notre arc ou plusieurs cordes, je sais pas comment. Mais...
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche. Donc.
C'est vraiment une nouvelle corde, une flèche à notre arc, une nouvelle.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'instant continue en direct jusqu'à minuit comme tous les soirs. Nous sommes sur RMC, évidemment, et sur la chaîne YouTube de l'After en direct, After-Foot. Vous pouvez donc nous écouter à la radio, nous voir sur YouTube. Vous pouvez même basculer YouTube sur votre télé, comme ça on est dans votre salon. Magnifique. Tout est possible désormais avec l'After. Podcast, direct, radio, télé.
On va bientôt être obligé de parler avec la main comme ça.
On est partout.
Franchement, c'est trop bien. Moi, je suis dans mon lit le soir, je mets mon appli sur ma télé connectée, YouTube. Regarde l'after.
Et puis, voilà. Écoute le plat, comme ça tu dors plus vite.
Vous les avez entendu, Thibaut le plat est là. Salut Thibaut.
Bonsoir camarade.
Et Kevin Diaz, salut Kevin.
Salut à tous.
L'événement ce soir dans l'after, les gars, c'est le retour de la Ligue 1. Mine de rien, demain, on a quand même un choc. Paris-Monaco, qui sera sur RMC, comme d'habitude. On va en parler dans quelques instants. L'info, débat. Tout de suite avec vous au 32-16, supporters parisiens, supporters monégasques. À 22h30, Kevin veut donner son avis sur Florian Maurice, qui reste à Rennes, et qui a d'ailleurs donné une longue interview à RMC aujourd'hui, que vous retrouvez sur rmcsport.fr. On l'écoutera, tout à l'heure. À 23h, Thibault, lui, veut parler de la gestion globale de Vincent Labrune à la Ligue, notamment suite à son audition à l'Assemblée nationale. C'était hier. Débat tout à l'heure à 23h. Et puis à 23h30, notre fameux débat sur le football des nations, qui passionne certains, comme moi, et qui en ennuie d'autres. On en débattra tout à l'heure ensemble. Le 32-16 est ouvert. J'ai plein de choses à raconter là-dessus.
Là, on a un avis, Gilbert Bribois. Va-t-on avoir un jingle ?
Oui, moi je suis
dans le conducteur, il y a écrit avis, Gilbert
Bribois. Moi, je suis au service du collectif, hein, comme toujours. Donc parfois, quand je peux en glisser un, je le glisse.
Tu peux embellir l'émission.
Surtout en plus sur le football des nations, quand même.
Le football des nations, c'est magnifique. Bon, ce sera tout à l'heure. Et puis le reste des infos du jour, on parlera notamment de Rui Pinto, qui n'est pas un joueur de Benfica. On vous expliquera tout à l'heure.
Et il est d'ailleurs de France de Porto, lui.
Et de l'équipe de France U17 aussi, dont on n'a pas eu le temps de parler hier.
Ouais.
Voilà. Ça fait pas mal de choses quand même.
Mais c'est qui Rui Pinto, du coup?
Tu verras tout à l'heure.
Ok. Je suis curieux.
Il n'y a pas joué à Guimarães non plus.
Des Rui Pinto, j'en connais quelques-uns.
Ah bon, Rui Pinto, c'est un peu comme genre...
Non, mais Rui et puis Pinto, c'est des noms quand même.
Jacques Moreau en France, par exemple.
C'est un peu ça, ouais.
Les Football League, ça te dit quelque chose?
Ah oui, ok.
Ah ouais, c'est lui.
C'est le Assange du football?
En quelque sorte. En quelque sorte.
Un peu. Voilà. Rien à voir avec Joao Pinto. Hein.
Ah oui. Ni Pinto da Costa, du coup.
Ni Pinto da Costa.
Ok.
Il y en a d'autres, des Pinto.
Je sais pas. Bah, il y a Sapinto, déjà.
Sapinto. Hein.
Vous vous rappelez qu'il y avait Joao Pinto et Sapinto?
Joao Pinto, célèbre pourquoi? Point commun avec Duga.
Point commun avec Duga.
Ah, oui. Carter de Narine.
Ah oui, les Carter de Narine. Bien joué.
Je croyais que t'allais dire qu'il avait, comme Duga, signé à vie au Benfica.
Il y a eu une grosse époque, et Carter de Narine, c'est vraiment, c'est le
tournant. Néné aussi.
En fait, le début, c'est 94. Il n'y en a pas beaucoup.
Il portait bien son nom.
Voilà. Et entre 95 et 2002, il y a une folie de l'écarteur de Narine.
Alors ça, c'est un truc très foot.
C'est incroyable.
Il y a des modes. Il y a des modes. Et quand un joueur le fait, t'as 15 joueurs qui font pareil. Et là, en ce moment, la mode, c'est on coupe les chaussettes au niveau du mollet.
Maintenant, c'est les mollets, ouais.
Non, mais ça, c'est franchement, c'est horrible.
Non, mais il y a quelques années, la mode, c'était on met une chaussette de contention sous la chaussette de foot. Ça, donc, ça te serre encore plus le mollet parce que c'est pour favoriser la circulation sanguine.
Maintenant, c'est l'inverse.
Ouais. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, comment
Mais moi, je trouve ça tellement pas classe quand je vois les joueurs faire ça. En plus, ça va. Et tu vas pas me dire que les équipementiers peuvent pas leur faire des chaussettes un peu plus larges s'ils veulent aujourd'hui.
Il y a tout ça. Et le short relevé.
Ouais.
Il y a un truc de short, parce que bon, il y a Nicolas Palois,
Cristiano Ronaldo, mais lui c'était que à l'entraînement.
Et tu vois les mecs pendant aux arrêts de jeu, ils sont concentrés sur est-ce que mon short est suffisamment relevé.
Schenkelfeld de Panathinaikos le fait aussi.
Oui, mais ils le font tous.
C'est pour montrer la.
C'est le Daoui à Nice par exemple, il le fait tout le temps.
Non, peut-être qu'il y a des. Je crois que Palois parce qu'il trouvait que les shorts étaient trop petits, non?
Oui, comme ça c'est la légende. Après, Boudaoui, il a pas les cuisses de Nicolas Palois, si je peux me permettre.
Mais tu sais, on sait que les digressions dans l'after c'est important, mais pour moi le style pour un joueur de foot c'est très important. T'es obligé d'avoir. Alors il y en a qui ont les chaussettes
relevées. Toi t'avais quoi? C'était quoi?
Moi c'était plutôt entre guillemets Thierry Henry, quoi. Chaussettes relevées, shorts pas trop.
Chaussettes relevées sur le genou.
Ouais, juste au-dessus du genou.
Alors
pas
ça
trop.
C'est un style d'attaquant. Tu vois par exemple quand Nicolas Palois il fait ça, ça me choque. Ah ouais. Je trouve que la
chaussette relevée en mode bas là,
la chaussette relevée sur le genou, pour moi, d'accord. C'est
c'est pas Thierry Henry qui a inventé ça.
Non, c'est Sonny Anderson.
Sonny Anderson.
D'ailleurs, il l'a dit Thierry Henry qu'il s'était inspiré de Sonny Anderson. Quelle classe.
Il y a maintenant Dani Alves le faisait aussi.
Après moi il y avait autre chose.
Ça m'a toujours choqué.
Moi il y avait autre chose quand même. Normalement, dans l'absolu, dans l'idéal, c'est quand même que les chaussures soient de la même couleur que les chaussettes.
De quand date la première chaussure blanche, entre parenthèses, je l'ai mis sur mon Twitter, j'ai un article de Panenka de la semaine dernière, excellent. Alan Ball 1970, Hummel. Ouais. C'est des Adidas repeintes en blanc. Avec, ils ont refait le logo eux-mêmes pour faire, parce qu'il fallait qu'ils fassent grimper les ventes de Hummel. Au lieu d'en vendre 4000, ils ont vendu 6000. Et après, on a attendu et c'est revenu aux années 90.
Ah, non,
mais... Et c'était une fausse Adidas avant le Cruyff, tu sais, qui avait enlevé la bande en 74. Là, c'est 70 et tu le vois et tu vois la photo. C'est vraiment une chaussure noire cirée en blanc avec un faux. Okay, incroyable. Je vous l'enverrai si vous voulez, ça vous intéresse, allez voir sur mon compte.
J'ai presque envie de te dire, malheureusement, les joueurs n'ont plus que des chaussures de sponsors. Donc en fait, ils choisissent pas leurs coloris. Mais quand même, l'idéal.
Quand même. Ils choisissent. Ils ont des catalogues. Quand t'as les sponsors, ils ont des catalogues.
Non, ils ne choisissent pas du tout. À part Kylian Mbappé, peut-être.
Moi, j'en ai connu qui choisissaient. Ils devisaient des commandes et tout.
Mais aujourd'hui, si tu es sponsor des plus grosses marques Nike, Adidas, Puma, ce ne sont pas eux qui choisissent les couleurs. C'est l'équipementier qui choisit les couleurs et qui leur renvoie. Ils doivent pendant telle période. Là, en ce moment, par exemple, on a vu en équipe de France.
Donc, en gros, je pousse parce que on connaît. Jérôme Bretagne l'a raconté, par exemple. Tu reçois une paire de pompes de ton sponsor qui te paye, mais elle te va pas. T'as mal dedans parce que il y a des formes de pieds, il y a des chaussures plus ou moins larges.
C'est clair.
T'es obligé de la porter en fait.
Mais c'est clair.
Et donc éventuellement tu te blesses.
Mais c'est clair. Et ça après tu peux changer de modèle. Mais même certains ne peuvent pas changer de modèle parce qu'ils sont associés avec tel modèle dans telle marque. Voilà. C'est-à-dire que quand ils changent de modèle, des fois moi ça m'arrivait. J'aimais bien les Mercurial Vapor, tu vois, de Nike. Mais il y a eu des années où elles étaient un peu plus larges que l'année précédente. Moi elles m'allaient plus. Donc du coup je passais chez Adidas.
Moi j'ai une fascination.
Mais ça c'est parce que moi j'avais d'ailleurs un sponsor, mais bon bref c'était pas un sponsor comme Nike et Adidas, mais c'était une marque d'ailleurs, c'était une marque allemande qui avait repris le nom de Pelé. Pelé Sport ça s'appelait.
Pelé
du joueur.
Le Pony c'était dans les bronzes.
Nous là Pelé Sport. Il y avait aussi
la grande classe à l'époque et je suis toujours fasciné. Maintenant c'est quand même les chaussures à couleur, tout ça ça m'ennuie un peu. C'est les Copa Mondial des arbitres. Il y a plus que les arbitres qui portent ces chaussures maintenant.
Ou les World Cup.
Les World Cup. Moi j'avais les World Cup vissés.
Ouais.
C'est ça les. Tu sais que les Copas Mondiales avaient des vraies languettes. Parce que maintenant, pourquoi tous les mecs se blessent sur le dessus, là, l'os qui est sur le dessus du pied.
Parce que
t'as plus de languette, t'as une languette super fine. En fait, c'est fou, faut pas jouer avec ça.
Après, le plus stylé avec la languette, c'était quand même David Beckham. Quel style. C'est lui qui repoussait la languette des prédateurs jusqu'au bout du pied, quasiment.
C'est vrai.
Et en plus, il avait marqué son nom, Bex. Oh non, franchement, quel style. Extraordinaire. Vous savez pourquoi
Antoine
joue avec des manches longues?
Pour toi?
Non. Non, pas pour moi. Pourquoi Antoine Griezmann jouait avec des manches longues?
Pour les tatouages?
Non, parce qu'il était fan de David Beckham qui jouait toujours avec des manches longues.
À cause des tatouages. Qu'il voulait pas qu'on voit les tatouages.
Voilà. Mais lui, c'est juste pour faire comme Beckham. Et par exemple, toutes les coupes de cheveux d'Antoine Griezmann, c'était aussi des fois pour reprendre la coupe qu'avait eu Beckham, de ce que j'avais lu une fois.
Je croyais que c'était Jérôme Bretagne, le Beckham français.
Ah, je sais pas.
Le Beckham gaucher.
Le Beckham gaucher. Après cette longue introduction, pas inattéressante,
C'est football, le style, c'est important.
PSG Monaco, donc demain soir, avec quand même une question qu'on peut poser ce soir, vu les absents côté parisien, donc bon, Zaïre Emery Marquinhos, vous allez me dire, il en reste d'autres. Est-ce qu'on doit considérer le PSG comme ultra favori malgré tout demain? C'est pas n'importe qui en face. Monaco, il y a quelques jours, il y avait encore des avis dans l'after pour dire attention à Monaco, ils peuvent aller embêter le PSG, et si le titre était possible pour eux, là on a quand même un des gros matchs de notre championnat demain, une confrontation directe pour le podium. Alors, Zaïre Emery, Marquinhos absent côté Paris. Précisons quand même qu'il y a des absents à Monaco. Il y en a notamment un très important, c'est Youssouf Fofana évidemment, qui est suspendu. Boadou et Ben Seguir sont pas là. Bon, Mbolo, ça fait un moment. Kylian Henrique également. Bon,
il y a aussi des absents. Kylian Henrique et Van Dersen quand même, quand ils sont pas là.
D'ailleurs, j'ai l'équipe, le 11 de départ possible de Monaco demain. Bon, ça a quand même de la gueule, avec leur nouveau bon gardien cette année, Keun. Maripane en défense, Singo Magassa, Jacob Zakaria, Matadzo, Diata, Golovin, Minamino, annoncé titulaire, et Ben Yedder, annoncé titulaire, seul en pointe demain. Côté parisien, il ne devrait pas y avoir non plus de surprise notable.
Il y a le milieu, quoi, on a envie de savoir.
Oui, que va-t-il se passer sans Zaïre Emery, en fait? C'est un peu ça. Ouais.
Moi, je parie sur Vitinha, 4-3-3 avec Vitinha.
Bon.
Ouais.
Est-ce que vous considérez que le PSG est malgré tout ultra favori demain soir face à Monaco, ou est-ce que vous voyez un match un peu plus ouvert?
Bah écoute, on devait faire le Survivor avec notre partenaire.
Bien sûr.
T'as
mis Paris.
J'ai joué quoi toi?
Mais du coup, j'ai pas joué le Paris Saint-Germain. J'ai hésité, plus, ouais. Mais je me suis dit non, je suis pas sûr que le PSG va battre l'AS Monaco. C'est quand même
un jeu très intéressant pour ça.
Bon, après, moi, j'avoue que c'est quand même très difficile de dire à chaque journée qui va gagner un match pour sûr en Ligue 1. Mais en tout cas, souvent le Paris Saint-Germain à domicile, c'est quand même gagné ou quasi sûr. Bon, ils ont perdu en l'occurrence contre Nice, mais je trouve que Nice et Monaco sont deux équipes qui peuvent être non pas semblables dans la qualité de jeu, mais dans la qualité de l'effectif quand même. Il y a quand même des joueurs encore plus à Monaco qu'à Nice, et bien sûr que l'AS Monaco, d'ailleurs historiquement sur les dernières saisons, pose souvent beaucoup de problèmes, comme le GC Nice d'ailleurs au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et donc moi je mettrais pas ma maison sur le fait que le PSG batte l'AS Monaco, mais pour moi, si je dois répondre à la question du soir, ils sont quand même pas forcément grand, mais favori contre l'AS Monaco.
De toute façon, Paris est toujours favori en Ligue 1. C'est après, t'as des challengers plus ou moins armés. Effectivement, moi je trouve que Monaco c'est une équipe intéressante qui dernièrement a un peu plus de mal, notamment à cause des blessures. Tu t'en parlais tout à l'heure, des blessures sur le côté. C'est vraiment pour Monaco, c'est terrible, parce que tous les buts que je regardais, les buts contre Lille, je raconte les buts contre Marseille, c'est toujours le même but en contre sur le côté, dans le dos des latéraux, derrière Crépin
Diata. Ou sur coup de pied arrêté avec Caio Henrique.
Ou sous coup de pied arrêté, mais je parle des buts encaissés.
Okay.
Des buts encaissés, c'est vraiment toujours des contres, ou alors attaque côté droit, ça termine côté gauche, et à chaque fois le latéral, le piston est pris à revers. Et donc là, contre Paris, t'as Mbappé, Colomboigny, Dembélé, tu sais que ça peut faire un peu mal quand même sur les côtés. S'ils arrivent à tenir les côtés, je pense qu'au milieu, ils sont capables de garder le ballon plus facilement que Paris. Donc ils peuvent
faire mal à Paris aussi, voilà, dans les transitions.
Je pense que ça va se jouer sur les 20 premières minutes, voilà, sur les transitions. Mais la difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'ils se découvrent trop sur les côtés.
C'est un test aussi pour cet entraîneur qui est quand même un entraîneur dit offensif, qui aime le spectacle et les projections vers l'avant. Mais le PSG adore les équipes qui se projettent face à elle et qui n'hésitent pas à déséquilibrer.
C'est la nouveauté du PSG de cette année. Ouais. Après, il y a quand même l'inconnu du milieu. Moi, Ruiz ou Garté tout seul, ça me fait un peu peur. C'est très très lent. Garté non, mais Ruiz, c'est quand même tout seul à deux. Alors c'est pour ça, moi, je parie plutôt sur l'attelage avec Vitinha, parce que pour justement résister au pressing monégasque et être capable de sortir du pressing, garder un peu le ballon.
Ça, moi, j'aime beaucoup Kangingli quand même, même si j'aime bien.
J'aime bien, mais c'est plus de la percussion. Et je suis pas certain contre Monaco, ils aient besoin de ça. Ils ont besoin de plus de contrôle.
T'as besoin peut-être d'un mec aussi qui va pouvoir être entre les lignes pour ressortir les ballons, pour être disponible.
Mais Kangingli, il est moins sur ce registre-là. Il me semble moins incontournable que Vitinha.
Oui, non, mais moi, j'aime bien Vitinha, mais c'est vrai que. Mais
moi, j'aime bien Kangingli, mais Kangingli.
Jouer avec les deux.
Kangingli, tu sais que tu vas jouer contre un bloc bas, il est plus intéressant parce qu'il va être capable de déséquilibrer sur un geste, etc. Vitinha, c'est plus une capacité à garder le ballon sur le côté pour un contre, pour rééquilibrer et effectivement éviter un pressing. C'est le seul joueur vraiment avec Ugarte qui est capable vraiment sous pression de garder la lucidité et de garder un ballon.
En Ligue 1. On va aussi parler des duels parce qu'il y en a quelques-uns là sur par exemple le chat YouTube. On me dit Fred me dit il me tarde de voir le duel Skriniar Balogun par exemple. Vous voyez, il y a un peu de second degré, je pense qu'il peut-être pas trop fan de Skriniar. Fred, on aura Cédric au 32-16 avec nous dans quelques instants pour continuer le débat sur ce match de demain, avant ensuite de parler de Rennes et d'entendre Florian Maurice. C'est à tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
22h18, Kevin Gazella, Thibault Leplat est là toujours avec ce débat PSG Monaco demain soir. Match, c'est le match du week-end, les gars. Hein, avant Strasbourg-Marseille, bien sûr, samedi soir.
Oui, le grand Strasbourg.
Il y a le Lorient-Metz quand même.
Saint-Régis,
le Lorient-Metz, match qu'il faut absolument gagner.
En même temps, pour les Merlus, absolument gagner aussi.
Il y a
beaucoup de matchs très indécis. Il y a beaucoup de matchs très indécis. C'était très difficile le Survivor de sur cette journée. J'ai eu du mal.
Enfin, Nice-Metz.
Moi, j'ai mis Nice-Metz. Non, c'est pas Nice-Metz.
Non, c'est Lorient-Metz.
Clermont.
Clermont.
Non, Toulouse. Nice-Toulouse.
Ah, Nice-Toulouse. Oui, mais Toulouse, ils viennent de battre Liverpool. Ça sent le nul à plein nez. Il joue à l'Alliance.
Ah, moi je pense
ça sent le nul à plein nez ce match.
Nice Toulouse, ça sent le nul à plein nez.
Ouais. Tu vas voir.
Je crois que t'as pas de nez.
Tu l'enregistres. Tu l'enregistres et puis tu réécouteras. Bon, tu réécouteras lundi.
Tu iras.
Ouais, tu vas. Ça sent le nul à plein nez.
Tu vas des fois à l'Alliance ou pas?
Bah oui, dès que je peux, j'y vais. Ouais.
Parce que là, on parle du fameux jeu Survivor de l'After. C'est Tous les week-ends, on choisit un club. Si ce club gagne, on survit. Sinon, ouais, on est éliminé.
Même s'il y a match nul, on est éliminé. Il faut absolument
l'utiliser. C'est ça qui est dur. Voilà. C'est un club par journée.
Si vous réfléchissez, c'est vous sur qui vous auriez parié. Ouais. Ce week-end, c'est pas évident. Bon, Paris-Monaco. Cédric est avec nous, supporter de Monaco. Cédric, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Bon, est-ce que toi t'y crois? Est-ce que tu penses que là, sans Zaïre Emery, sans Marquinhos, vu la dynamique du moment de Monaco, est-ce que c'est possible de gagner au Parc?
Alors, c'est possible, mais vu la dynamique est pas très bonne.
Fait, hein.
J'étais au Havre, au match du Havre, et franchement, c'était une purge, une vraie purge. On a joué avec un seul attaquant. Et avec Wissam devant, et honnêtement, le match était catastrophique. Il y a eu quoi, trois tirs pour Monaco et un seul cadré, mais d'un ennui profond, franchement très profond. Alors j'espère au moins pour qu'on ait une chance et qu'il joue avec deux attaquants. Moi j'aimerais bien revoir parce que.
A priori, ça va être Ben Yedder tout seul, hein.
Ouais, je sais bien. Alors c'est pour ça que vous parliez juste avant la pause de faire un pressing, mais quand Ben Yedder est tout seul devant, on pourra pas faire de pressing. Ben Yedder, il peut pas. C'est pas lui seul qui va faire. Il va entamer le pressing et que l'équipe le suive derrière. Moi, j'aimerais vraiment qu'on joue avec deux attaquants, comme il y avait à l'époque avec Voland, même qu'ils mettent Balogun avec lui, mais tout seul, c'est trop juste. Et justement, il faut profiter de l'occasion qu'il n'y ait pas Marquinhos, qu'il n'y ait pas Zaïre Emery pour essayer de mettre un peu plus de pression qu'à l'accoutumée. On fait contre les petites équipes, entre guillemets, mais à Paris, il faut essayer de le faire aussi.
C'est surtout au milieu, à mon avis, Paris est prenable au milieu.
Oui, on est prenable parce que nous, en plus, on a un bon milieu. Alors, il y a Fofana qui est absent, mais Camara est largement capable de le remplacer, je pense. Même si c'est un deuxième moindre, mais il est capable de le faire et j'adore ce joueur-là.
Quand tu compares le milieu parisien et le milieu monégasque, t'es largement en dessous quand même, excuse-moi.
Oui, on est au-dessus. On est en termes de pressing et puis d'agressivité.
Zakaria, Matadzo, Diata en face de Ugarte, Vitignali.
Minamino devant.
Minamino,
il joue quand même plus au milieu qu'attaquant.
Oui, mais Minamino, lui, il est capable de faire les efforts défensifs.
Oui.
Il est largement capable de le faire. Il faut qu'on soit solidaire de ce côté-là. Faut pas qu'il reste à 3.
De toute façon, votre problème, ça va être dans les couloirs aussi. Hein. Ouais, après, il va falloir voir comment Luis Enrique va s'adapter à une défense à 3, en 3-4-3. Il va falloir voir est-ce qu'il va faire une adaptation, est-ce qu'il va fermer les couloirs, comment il va le faire, est-ce qu'il va continuer de défendre en 4-4-2 avec un Vitinha ou un joueur qui défend dans le dos de Kylian Mbappé. Il y avait eu, attention, on a quand même pas oublié qu'il avait un peu tensé Kylian Mbappé après la victoire et son triplé contre Reims, en gros en lui demandant de faire un peu plus pour l'équipe. Est-ce qu'il va choisir le même système? Est-ce que c'est le premier match après cette déclaration? On va voir comment le PSG et son animation vont évoluer jusqu'à la fin de l'année et puis en deuxième partie de saison.
C'est l'enjeu de ce match, hein. C'est vraiment les côtés. Qu'est-ce qui va se passer sur le côté? Est-ce que Mbappé a entendu le message? Et est-ce que Monaco va être capable de régler ce problème?
On va quand même écouter Luis Enrique qui parle des blessés. Parce qu'il a été interrogé aujourd'hui sur le sujet, sa réponse.
Sin ninguna duda, tengo una plantilla la mejor del campeonato.
J'ai la meilleure équipe du championnat. C'est dur d'avoir des joueurs blessés, mais l'effectif est très large et de haut niveau. Avec le programme chargé, ce n'est pas plus compliqué. On a beaucoup d'envie après cette trêve.
Plantilla muy amplia y con muchísimo nivel.
Bon, j'ai la meilleure équipe.
Il a dit un truc rigolo d'ailleurs.
Heureusement.
Luis Enrique dans la conférence de presse, il lui dit, on lui dit alors qu'est-ce que vous pensez de la Liga? Il dit, finalement c'est un championnat pas mal et tout. Et je me suis dit mais tout le monde était là à se féliciter. Bah oui, il y a des bonnes équipes. J'ai été agréablement surpris et je me suis dit mais c'est un peu comme le mec qui vient dîner chez toi et qui dit, finalement c'est pas mal la bouffe ici. Toi tu te dis.
Ah, tu veux dire il va pas arriver.
Je lui dis mais quelle est l'image de la Ligue 1 en fait? Tu vois les types arrivent et ils se disent.
Toi tu vois en creux un message. En arrivant il s'est dit où est-ce que je fous les pieds.
C'est comme le mec qui dit finalement le dessert il est pas mal chez toi. Puis la déco ça va. Ça m'a un peu. Je me suis dit quelle est l'image de la Ligue 1 quoi.
On ne va pas reprocher à Luis Enrique quand même de.
Non mais ils disent tout ça, tous les entraîneurs étrangers qui disent ça.
Non pas de sous-estimer la Ligue 1 mais attends Luis Enrique quand t'as entraîné l'Espagne, quand t'as entraîné le Barça. Bon, forcément, t'arrives en Ligue 1, c'est quand même. T'es pas upgradé, quoi. T'es un peu downgradé pour le coup.
D'accord, mais tous les entraîneurs étrangers qui viennent disent tous exactement la même chose.
Bon, en même temps, Thibaut, t'as pas un entraîneur qui va se pointer et qui va te dire mais, en fait, c'est nul ici. Qui peut arriver et qui dit je sais que c'est un très bon championnat.
C'est fidèle aux attentes que j'avais. Je sais que tu cuisines super bien. C'est pour ça que je suis venu manger chez toi. Parce que tu me fais toujours des super plats.
Là, t'es un peu dur. En fait, c'est juste. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la Ligue 1, mais. La Ligue 1, c'est pas si mal.
Je trouve pas que ce soit un message hyper positif sur la Ligue 1. Au contraire.
Alors, bon. Cédric, un dernier truc sur Monaco,
sur la Ligue 1.
Non, j'ai pas tout à fait tout dit. Après, il y a notre défense qui est quand même, voilà, on a les deux meilleures attaques qui sont face à face, mais nous, notre défense, on est quand même à 15 buts encaissés et l'inquiétude est à venir de là. Faut pas qu'on craque dès le début du match pour avoir une chance, je pense.
Oui, bah ça, c'est sûr que.
Bah, le premier quart d'heure, ça va être clé.
Qui va être face à Mbappé là, c'est... Monaco, en fait. C'est Jacob ou Diatta qui va être face à Mbappé?
Diatta, du coup.
Là, il a fait avec. Ils ont bricolé parce que Diatta, il est courageux. Mais bon, il a vite fait de se jeter aussi. Et... En fait, c'est une incertitude totale à chaque fois que Monaco joue. On croise les doigts pour que ça passe à cause de la défense. Mais bon, on est plein d'espoir, évidemment, en tant que supporter positif qu'on est.
Cédric, merci beaucoup. Bonne soirée, bon match demain.
Mais ça marche, merci. Bonne soirée.
Salut, bien. Cédric.
Bye bye. Demain soir, donc, ce PSG Monaco. Juste un mot quand même, parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé depuis le début de la saison du gardien de Monaco. Parce que pendant des années, on disait, mais ils n'arrivent pas à trouver un gardien correct. Ils sont trimballés le pauvre Nubel, là, qui était une passoire pendant plusieurs saisons. Là, ils en ont enfin trouvé un bon, là.
Ouais.
Et là, alors, Kuhn, c'est Schön, comme on dirait.
Schön. Mais c'est un joueur, moi, que je connaissais parce que sur les sites, que ce soit Football Manager ou Fantasy League, peu importe le jeu d'ailleurs.
Tu connaissais son avatar. Tu connaissais pas.
C'était un jeune gardien qui jouait au plus haut niveau. Il y en a pas tant que ça, des moins de 23 ans, qui sont titulaires quand même dans un club cohérent qui était Salzbourg. Aujourd'hui, c'est vraiment un gars qui est tout simplement au niveau de l'AS Monaco, ce que n'était pas Nubel, et on l'a vu dès le départ. Dès les premiers mois de Nubel, tu vois, c'est plongeon, il y a rien d'ailleurs. Je sais même pas où est-ce qu'il joue Nubel, pour te dire la vérité. Et c'est vrai que c'est
un. Il a été prêté dans un club de Bundesliga.
Je sais pas plus.
C'est le genre numéro 2 à Francfort, un truc comme ça.
Je sais plus, mais là, c'est un gardien quand même qui est très cohérent. Il est titulaire.
Ah, je l'ai vu jouer des matchs, ouais.
Donc c'est quand même un gardien qui dégage de la sérénité, même s'il a fait une ou deux boulettes, hein, quand même. Ça reste un jeune gardien, et on sait, j'en parlais d'ailleurs avec mes gardiens cette semaine, mais c'est la maturité d'un gardien, c'est quand même plutôt autour de 30 ans.
Tu laisses le choix entre Donnarumma et Kuhn dans ton équipe des Lusitanos, tu prends lequel?
Non, mais après, Donnarumma quand même.
Trop cher, il prend pas Donnarumma.
Juste les qualités footballistiques.
Il prend pas.
Non, mais si tu me demandes à choisir, je préfère Mike Maignan, par exemple.
Kuhn ou Donnarumma?
Kuhn ou Donnarumma, non. Je prendrais quand même Donnarumma, parce que sur sa ligne, c'est quand même dur de lui mettre un but, hein, à Donnarumma. Après, c'est clair que...
Après, comme dirait Lionel Charbonnier, c'est le dernier recours, l'arrêt sur la ligne. T'arrêtes tes buts avec la voix. C'est ce que dit Lionel Charbonnier. C'est ce qu'on me disait aussi quand j'étais gardien. C'est l'anticipation,
J'ai vu Donnarumma avec l'Italie.
Il est capable de sortir beaucoup de ta zone.
Je vais te dire un truc. Un gardien, il est, pour moi, mature à 30 ans. Souvent, tu les vois, c'est là où ils sont les meilleurs, entre 28 et 35 ans, un gardien. Donnarumma, il a commencé très jeune. Si il arrive à rester sain, il peut nous faire quand même une carrière, je vais pas dire à la Buffon, mais une longue carrière, et on oubliera peut-être qu'au PSG, dans son passage, il a été un peu moins bon avec les pieds. Il y aura pas toujours des entraîneurs qui vont lui demander d'être le libéro et le premier lanceur de son équipe, même si ça, il sait pas le faire, et je pense que ça s'acquiert pas, c'est tu l'as ou tu l'as pas.
Tiens, j'ai une petite annonce là qui vient de nous arriver. La Ligue décide de lancer une nouvelle distinction, apparemment faite pour Mbappé, puisque la Ligue annonce ce jeudi le lancement d'un dispositif visant à mettre en lumière le leader du classement des buteurs, avec un badge spécial S1 pour scoreur 1.
C'est une blague ce que tu veux me dire.
Non, c'est
un badge sur le maillot du gars.
Oui. Le top scorer portera ce badge à chaque nouvelle journée de championnat. Un badge de couleur dorée. Voilà.
Attends, mais même les Américains, ils n'ont pas osé faire ça.
Ah, mais là, franchement, moi je découvre l'info. Là on est dans du joueurisme. Ça, c'était un truc pour la revue de l'after qui est en kiosque, Thibaut aussi. Ils auraient dû nous l'annoncer avant.
Mais c'est
nouveau football, ça.
C'est un troll ou c'est sérieux?
Ah non, c'est sérieux. Il y a rmcsport.fr là, qui est un site très sérieux, je te signale. De référence, de qualité.
Je ne savais pas quelle était la source, mais.
C'est pour le coup, autant je trouve ça bon.
À partir de ce week-end,
je trouve ça.
Donc là, il va l'avoir, Mbappé.
C'est même pas depuis le début de saison.
Je trouve ça que c'est fait pour lui.
Je trouve ça ridicule, machin. Bon, ok, on est tous d'accord. Maintenant, d'un point de vue de marketing, d'un point de vue d'époque, je me dis qu'effectivement, les joueurs, ils sont capables d'être contents d'avoir ça. Et je vois très bien Mbappé. Tu sais, je pensais par exemple à Cristiano Ronaldo qui à chaque fois qu'il avait l'écusson, tu sais, du Real champion du monde, il le montrait, tu sais, aux supporters. Et déjà, ils étaient contents tous d'avoir l'écusson de champion du monde, etc.
Non, champion du monde est meilleur buteur quand même.
Ah, je me dis que, moi, je trouve ça ridicule à titre personnel, mais je me dis que
le meilleur buteur, il va être content quand même d'avoir sa petite distinction, d'avoir son petit truc. Voilà. Après, je pense qu'on a autre chose à faire, faut s'occuper de ça.
Moi, franchement,
je vous arrête.
Là, on ouvre la porte à un truc.
Moi, non, mais c'est l'époque.
Dribbler 1, c'est l'époque.
Ouais.
Déjà, tu le files à Dembélé. Ouais, et même si le dribble, il est pourri, qu'il ne donne rien derrière, il sera le dribbler 1, par exemple. Ouais, mais c'est assez logique, hein.
On passe le P1, le P1.
On passe notre temps à faire ce classement-là. Il y a le joueur du mois, le joueur de la semaine.
Désolé, moi, à la place.
Et le chou F1 pour le meilleur tireur de coup franc.
Moi, à la place du joueur qui a S1. Mais franchement, j'aurais honte. J'ai pas besoin. On sait que t'es le meilleur buteur quand même. On sait que Kylian Mbappé ou Ben Yedder sont les deux meilleurs buteurs du championnat quand c'est eux qui.
Il faut pas sous-estimer le.
C'est ridicule.
La vanité de. C'est comme ceux qui ont les Légions d'honneur ou le mérite agricole.
D'accord, la Légion d'honneur c'est autre chose quand même.
Oui, mais c'est un peu pareil. Tu mets un truc à la boutonnière, ça coûte pas cher.
Tu sais, hein, ça c'est mon côté peut-être capitaliste. C'est la seule chose dont auquel je pense.
L'oseille.
C'est notre collectionneur de maillots qui va se dire, ah tiens, à telle journée il y a le maillot. De Mbappé avec le S1. Voilà,
bien
ça
sûr.
C'est le seul truc que je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant pour les collectionneurs. Mais alors footballistiquement, c'est ridicule.
Ouais. C'est info qui vient de nous arriver.
Football. C'est le nouveau football.
Voilà.
Ouais. Et c'est original pour le coup la Ligue 1 là.
C'est original.
Pour une fois, se démarque.
Ouais.
Se distingue.
Ouais.
J'ai jamais vu ça.
Ouais. Ça me permet parce que c'est le nouveau football, thème principal de la revue de l'After qui recueille. Joueurisme, réseaux sociaux.
Tu sais qui a inventé quand même le terme de joueurisme?
J'imagine c'est Kevin Diaz.
Bah bien sûr.
Tu racontes?
Bah bien sûr que oui.
Ça se touche avec Nico Villas.
Le prime et le joueurisme. Ah non, c'est moi qui parlais de joueurisme en premier ici même.
Villas, c'est clubisme.
Ah oui, c'est clubisme.
Oui, donc Villas, j'avais fait un dérivé du clubisme de Nico. On était ensemble. J'ai dit là, c'est plus
contre,
du joueurisme.
Qui a inventé le football liquide?
Ah bah bien sûr, voilà. Le grand Thibaut Leplat.
Sur ma tombe,
il y aura écrit CJ le football liquide. Et donc bah, la revue de l'After en kiosque actuellement parle de tout ça. Si ça vous passionne, allez vous la procurer. Allez, dans un instant on est de retour avec Rennes au programme. Florent Maurice a parlé à RMC, longue interview très intéressante, il parle de Genesio, de Stéphane, de son poste, et Kevin veut donner son avis là-dessus. C'est tout de suite, supporter Rennes, on vous attend au 32-16.
RMC 22h minuit, l'After Foot,
Gilbert Brisbois.
Il est 22h34, l'After est là jusqu'à minuit, tout à l'heure après 23h, on parlera du football des nations qui nous a régalé pendant 15 jours pendant la trêve. Je dis ça à dessein, parce que moi j'adore, certains détestent, Kevin par exemple, on en parlera tout à l'heure. Mais tout de suite c'est Rennes qui est au programme.
Oui,
parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant la trêve à Rennes, on en a parlé dans la génération After tout à l'heure, dans les autres After de ces derniers 10 jours. Mais là, la petite nouveauté aujourd'hui, c'est que Florent Maurice s'est exprimé longuement sur RMC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter quelques extraits avant que Kevin développe son avis. Parce que donc Florent Maurice confirme qu'il reste. Ça peut d'ailleurs être peut-être le premier extrait qu'on écoute, s'il est prêt à être diffusé. Messieurs en régie, dites-moi, Florent Maurice, d'abord, alors on me dit non, mais d'abord sur Genesio. Ok. Très bien, j'écoute Jérôme Thomas, qui est rennais, donc...
Avant, il y avait le téléphone qui appelait la régie comme ça. Tu te souviens de ça, dans les années 80, les mecs
bien qui appelaient
les amis de la technique.
Marie-Laure Gris. Ouais. Ah, attendez.
Attends.
On m'a dit que le sujet n'est pas prêt.
C'était un téléphone beige, non?
Il y avait toutes les couleurs. Un vieux téléphone, bref. Florent Maurice met les choses au point sur sa relation avec Bruno Genesio.
Par rapport à notre relation, notre amitié, j'ai plus envie de l'évoquer, en fait. Parce que je l'ai déjà dit, redit et redit, qu'il n'y avait pas de problème relationnel entre Bruno Genesio et Florent Maurice. On se connaît depuis qu'on a, moi, 18 ans, et lui, 20 et quelques années. Je me suis toujours très bien entendu avec lui. On n'est pas toujours d'accord, on ne peut pas être toujours d'accord. Mais ça ne veut pas dire que notre relation amicale, et même en tant qu'entraîneur et directeur sportif, elle a été détériorée. À aucun moment, vous pouvez interroger 100% des personnes au sein du Stade Rennais, il n'y a pas une personne qui vous dira qu'il y a un problème entre moi et Bruno.
Écoutez-le maintenant, parler de Julien Stéphan. Très intéressant.
Moi, j'ai eu derrière une conversation avec mon actionnaire qui m'a confirmé qu'il souhaitait que je continue avec Julien. Il a le droit de choisir l'entraîneur. Voilà. Après, moi, je m'adapte et je pense que c'est une solution qui était dans les clous. Je vous dire que c'était mon premier choix, je vous mentirais si je vous disais ça. Maintenant, c'est comme ça, on se doit d'avancer de cette manière-là. Je le connais, je sais comment il fonctionne, je sais ce qu'il a fait comme travail ici au Stade Rennais, et on va continuer l'aventure ensemble pour relever l'équipe aujourd'hui. C'est la chose aujourd'hui la plus importante pour le club, c'est de revenir à un niveau là où il doit être.
Là, je dis alerte. Alerte d'ores et déjà. On comprend donc très clairement que Stéphane a été choisi directement par François Pinault. Maurice dit, ce n'était pas mon choix numéro 1. Ça part bien. On va y revenir. Et maintenant, on écoute Florent Maurice parle de son mercato. Est-ce qu'il fait un mea culpa sur le mercato, sa réponse ?
Mea culpa, je vois pas de quoi je dois m'excuser aujourd'hui. Parce que mon travail, depuis quelques années, il est lié au recrutement. Donc, je suis critiqué, en fait, chaque année. On fait jamais 100% dans le recrutement. Ça n'existe pas. Voilà. Aujourd'hui, on cible le recrutement. Mais je me souviens qu'en début de saison, quand il a été fait déjà par tout le monde, au sein du club. Voilà. Pas que moi. J'ai pas souvenir qu'à l'extérieur, on se disait, Blas, pour citer que, voilà. J'ai pas le sentiment qu'on était parti comme ça. Après, malheureusement, la mayonnaise n'a pas encore pris, on va dire. Mais pour l'instant, laissez-moi encore penser qu'on a fait des choses de la meilleure manière possible.
Voilà, maintenant que vous avez tout ça, et si vous en voulez plus, vous allez sur rmcsport.fr. Jingle Kevin Diaz, s'il vous plaît.
J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis. Tu peux lancer la pub.
Rien compris.
L'art de la guerre.
Ah oui ?
Oui.
Rien compris.
Il est surpris que j'ai cité l'art de la guerre.
Sun Tzu ?
Ouais, j'attendais qu'il nous cite l'auteur, j'ai du mal, moi. Moi, j'ai jamais lu l'art de la guerre.
J'ai pas lu tout le livre, mais j'ai lu des extraits, notamment celui-là qui m'avait marqué.
Pourquoi veux-tu parler de Florent Maurice ce soir ?
Écoute, je parlais de Florent Maurice parce que j'entends déjà tes commentaires, et j'entendais les commentaires en première partie de soirée. Et moi, je pense que le fait que Florent Maurice reste au Stade Rennais, c'est une bonne chose pour ce club. C'est un club que j'ai suivi particulièrement ces 2-3 dernières semaines, puisque j'ai fait... grâce à RMC Sport, les 2 déplacements, que ce soit à Athènes face au Panathinaikos ou à Rennes. Et moi, je trouve que c'est un club qui est bien structuré, c'est un club qui vit bien. Et aujourd'hui, changer d'entraîneur, pourquoi pas. Voilà, Bruno Genesio a décidé pour raisons personnelles, ou en tout cas, il a eu ses raisons de partir et de laisser sa place à quelqu'un de nouveau. Mais moi, je pense que Florent Maurice, même s'il est critiqué parce que c'est le jeu, il fait du bon travail à Rennes. Il fait du bon travail à Rennes. Je l'avais croisé aussi lorsqu'il était dans son rôle de recruteur. Je l'ai croisé l'année dernière. J'étais aux Pays-Bas. Je l'ai déjà raconté cette anecdote ici, mais peut-être pas avec vous. J'étais aux Pays-Bas pour voir un match de Youth League entre la AZ Alkmaar et Real Madrid. Et on arrive une heure avant le coup d'envoi. Et qui est là déjà bien avant nous dans une place le mieux située possible. Florent Maurice tout seul.
Excuse-moi, en fait, tu te félicites de le voir faire son travail, quoi.
Non. Oui, mais ils font pas tout ça. Ils font pas tout ça. Aujourd'hui, c'est pas un directeur. Il y a différents types de directeurs sportifs. Il y a le directeur sportif qui est plus dans le management, dans la communication, comme.
Toi, quel type de directeur sportif?
Je vais te le dire. Comme Leonardo. Et puis, t'as le directeur sportif plus recruteur, plus proche de la cellule de recrutement, même si peut-être c'était le cas aussi pour Leonardo, mais comme Florent Maurice, qui était un ancien scout avant d'être un directeur sportif. Donc, il y a différents types d'entraîneurs, il y a différents types de directeurs sportifs. Et ici, une chose est sûre, et moi, je le rejoins dans ce qu'il vient de dire dans le dernier extrait, c'est que c'est quelqu'un qui travaille. Et que quand tu regardes le recrutement cet été de Rennes, si on est honnête, personne se dit, ouah, Rennes, qu'est-ce qu'ils font à prendre Ludovic Blas ou Enzo Lefebvre? Non. On peut discuter après des prix.
Peut-être
mais
que cet été...
C'est des joueurs intéressants.
Peut-être que cet été, on s'est fait un peu... enfumé, c'est peut-être pas le bon mot, mais peut-être qu'on les a vus trop beaux, qu'on a vu Lefebvre et Blas trop beaux.
Mais en tout cas, quand il dit que moi, par exemple...
Le recrutement est bon.
Quand je vois, c'est, les idées sont bonnes.
Quand tu vois la défense de Rennes, tu peux dire que le recrutement est bon.
C'est la défense, c'est le problème éternel de Rennes cette saison.
Mais aujourd'hui, Rennes... Et je rebondis là-dessus, j'ai vu cette stat hier, Rennes derrière Lyon, c'est l'un des clubs français qui a fait le plus jouer son centre de formation. Donc me dit, ah oui, mais le centre de formation,
un entraîneur,
aujourd'hui, c'est aussi une plus-value pour un club comme Rennes qui est, avec Lyon et peut-être un ou deux autres clubs, le meilleur centre de formation français depuis 10 ans ou depuis même peut-être 20 ans. Donc il y a un moment, il faut laisser de la place. Naïf Aguerre, tu le remplaces pas comme ça. Il y a des joueurs qui sont difficiles à Traoré, le latéral, c'est compliqué à remplacer. C'était un capitaine, c'était un leader. Derrière, ils font le pari des jeunes parce que peut-être que Théa est un peu moins bon. Mais c'est un choix de club aussi. Donc aujourd'hui, moi je pense que Florent Maurice, si je finis là-dessus, c'est un bon directeur sportif. Il travaille. Il y en a qui aimeraient qu'il communique plus, mais je suis désolé. Le rôle du directeur sportif, c'est pas d'être communicant, c'est pas forcément de toujours parler. Il y a des clubs, c'est le président qui parle un peu plus, comme à Lille. Il y en a d'autres, comme à Marseille, c'est pareil. Il y en a au PSG où on entend peu le directeur sportif, c'est souvent l'entraîneur qui communique. D'ailleurs, c'est ce qui est reproché au PSG depuis quelques années. Voilà, il y a différents fonctionnements, et je ne peux pas dire qu'à Rennes, ça ne fonctionne pas depuis que Florent Maurice est en poste. Et là, continuité, c'est bien.
Pour moi, il y a une problématique.
Ton avis à toi.
Il y a une problématique à Rennes. D'accord. C'est que je crois que c'est un club qui se pose des questions d'identité, qui ne sait pas qui il est. Il ne sait pas s'il est un centre de formation, si c'est un club formateur, ou si c'est un club destiné à jouer la Ligue des Champions. C'est un club qui ne sait pas quoi en fait, parce que et qui se demande s'il peut faire les deux. Et je ne crois pas que ce soit possible. Je ne crois pas que tu puisses être à la fois un club formateur et à la fois un club ambitieux au point de vue européen. Ce qui fait qu'on a une situation où à Rennes, par exemple, il n'y a pas véritablement de récit du club.
Formation, ils ont envoyé des dizaines de millions quand même sur les trois dernières années. Hein.
Bien sûr, mais avec quel résultat?
Attends, ils finissent quatrième.
Ils finissent quatrième
de Ligue 1, c'est leur place.
Ouais, mais tu peux continuer l'effectif par exemple cette saison-là.
Rennes est
très
régulier
ces
dernières saisons.
Et bien sûr, Rennes est très régulier, les gars. Attention,
il s'est régulé, mais regarde le début de saison, regarde où ils sont cette saison-là. Après un recrutement qu'on considérait, et je continue à penser que c'est un excellent recrutement là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a un problème lié à l'histoire que raconte ce club, qui a beaucoup grandi, qui est une référence en matière de formation et duquel on est en droit d'exiger
mais
plus.
Mais aussi en matière de recrutement.
En matière de recrutement, mais je parle pas, sortons du recrutement, je parle pas du recrutement.
Non, mais les deux, je veux dire qu'il y a, c'est pas la formation pour moins de recrutement, ils font les deux quand même, ils envoient des dizaines de millions d'euros sur d'autres.
La difficulté, c'est est-ce qu'on arrive à avoir des exemples de clubs qui sont à la fois des clubs formateurs et des clubs régulièrement Ligue des Champions?
Lyon, à l'époque où ça marchait bien.
Il y a 10 ans, l'Ajax par exemple.
Oui, mais l'Ajax sera où ils sont cette saison.
Oui, non, mais après tu peux avoir un creux. Mais le PSV, c'est un club qui forme. En Belgique, Genk, c'est un club qui forme.
Ce que je veux dire, moi, c'est que ce sont des clubs, les clubs que tu cites, sont des clubs qui assument parfaitement leur stratégie. La difficulté de Rennes, c'est que j'entends pas de discours très clair sur ce que veut être ce club. Il est arrivé peut-être à un moment de crise de croissance. On a du mal à se demander qu'est-ce qu'il y aura après. Est-ce que c'est ça le maximum? Est-ce que c'est le prime du club? Donc tu vas effectivement viser une Coupe de France de temps en temps, une participation de temps en temps en Ligue des Champions, ou alors compte tenu de ton actionnaire, compte tenu d'un club extrêmement bien structuré, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'un excellent centre de formation, qui a un environnement plutôt sain, tu peux dire que c'est un club sur lequel le football français, par exemple, pourrait compter. Ça pourrait être une sorte de nouveau Lyon, Rennes.
Oui.
Mais ça l'est pas. Moi, je pense qu'il manque un leadership. Il n'y a pas de leadership clair dans ce club-là, et on le voit. Genesio, il s'est cramé tout seul. Enfin, après que les enjeux qu'il peut avoir lui avec ses joueurs, mais on n'a pas de. Là, tu vois, Florian Maurice, il est sur la défensive quand il parle. On n'a pas de récit de club. On n'a pas de quelqu'un qui assume ça comme la.
Tu l'avais avec Olivier Létang.
On va continuer le débat avec les supporters Rennes au 32-16 dans quelques instants. L'interview de Florent Maurice, je le rappelle, est à retrouver en intégralité sur rmcsport.fr. Et puis après 23h, la gestion de Vincent Labrune à la Ligue une nouvelle fois en question suite à son passage devant la commission de l'Assemblée nationale. Le foot des nations, les U17, bref, plein d'actu jusqu'à minuit dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h49, ils sont là, Kevin Diazé et Thibault Leplat, l'after jusqu'à minuit. Rennes toujours au programme, on continue le débat avant de parler tout à l'heure de Vincent Labrune du foot des nations. Valentin au 32-16 est avec nous. Valentin, bonsoir.
Bonsoir les gars, ça va?
Ça va et toi?
Salut Valentin.
Ça va.
Est-ce que comme moi, Valentin, t'as l'impression que le verre est déjà dans le fruit quand t'entends Florent Maurice dire c'est pas moi qui ai choisi le coach, c'était pas mon choix numéro un, alors qu'il est censé en tant que directeur sportif être le supérieur hiérarchique de l'entraîneur?
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Gilbert, surtout quand j'ai entendu son interview cet après-midi dans l'émission de Jérôme Rotten, où il admet que Julien Stéphan n'était pas son premier choix. Moi, je pense qu'en fait, Julien Stéphan, il n'était même pas dans sa shortlist. Et on nous sort ça comme excuse aujourd'hui. Donc, la situation, elle me paraît un peu compliquée. Florian Maurice, je me dis qu'on le garde un peu par défaut parce que on a un mercato hivernal qui arrive à partir du 1er janvier. Et le 1er janvier, c'est demain, quoi. Donc, moi, à la base, je suis pas un grand fan de Florian Maurice. Et pour moi, c'est le principal responsable de la situation actuelle. Enfin, c'est un des grands responsables de la situation actuelle avec l'ancien entraîneur et les joueurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de virer un directeur sportif, d'en rechercher un autre, de le recruter pour qu'il prépare le mercato de janvier qui va être important pour nous, quoi. Donc j'ai envie de dire... le verre est déjà dans le fruit, mais faute de mieux, on n'a pas le choix de...
Il faut quand même rappeler l'histoire de Stéphan à Rennes.
et de ce club où les entraîneurs, de façon un peu chronique maintenant, partent d'eux-mêmes, ce qui est toujours un peu,
suspect. Ouais.
Toujours un peu suspect. À l'époque, Florent Maurice, il y avait souci avec Olivier Létang. Julien Stéphan, il y avait souci. Ouais. Voilà. Donc il part à cause de problèmes d'entente entre dirigeants. Et là, en fait, t'as l'impression qu'on est en train de reproduire peu ou prou le schéma qui avait fait partir à l'époque Stéphane. Moi, je souhaite à tout le monde de réussir à Rennes, hein, mais on est des observateurs du foot. Quand on voit ça, on peut se poser quand même légitimement des questions.
Mais sa réponse, elle te convainc pas? Moi, je trouve qu'il a été très honnête. C'est bien l'honnêteté. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas ou qu'il ne voulait pas travailler avec Julien Stéphane. Mais quand tu es directeur sportif...
Là c'est toujours pareil. C'est comme pour le président de la République. C'est les 100 jours de grâce. Tu vois, Stéphane vient d'arriver...
Il l'a dit. C'est-à-dire que s'il l'a dit, c'est que c'est pas un si grand désaccord. Sinon, il n'aurait rien dit, ou sinon, il serait parti. Gilbert, tu sais très bien que dans des clubs, c'est pas toujours le directeur sportif qui choisit l'entraîneur. L'idéal, c'est que ce soit lui qui choisisse l'entraîneur. Mais là, en l'occurrence, l'actionnaire connaît un entraîneur qui était là avant, qui n'a pas de club. Il se dit, il lui fait un contrat que de 8 mois. C'est pas non plus un complet désaveu pour le directeur sportif. Il lui fait, en gros, Julien Stéphane, il est en période d'essai. Est-ce que tu vas réussir à travailler avec Florent Maurice, qui a fait du bon travail sur les dernières saisons? Ce n'est peut-être pas le premier choix de Florent Maurice, et il a été honnête pour le dire, mais il a dit aussi que Julien Stéphane, c'est quelqu'un qui est dans les clous de ce qu'il recherchait comme entraîneur. Il a dit, je serais un menteur si je vous dis que c'était mon premier choix, ma priorité.
J'aurais aimé savoir quel était le premier choix.
Bah, apparemment, c'était de Rémy Garde ou peut-être même Gourvennec, mais peu importe. Il y a un moment, tu peux travailler avec plusieurs entraîneurs. Il y a un actionnaire.
Florent Maurice,
il
veut des Lyonnais, tu vois.
Il y a un actionnaire à Rennes qui décide.
Il n'y a pas sorti Gaillard du chapeau, on le sait.
Après, Kevin, ce qui est gênant dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu Stéphane qui a, entre guillemets, la main. Parce qu'en fait, Florent Maurice, t'entends son interview. On a l'impression, en fait, il dit, j'ai encore un peu de travail à Rennes. On a l'impression qu'en fait, il veut finir son travail et qu'il va partir à la fin de la saison.
Non, moi, j'ai pas du tout l'impression que Stéphane a la main.
S'il n'était pas présent à la présentation, s'il s'est mis un peu en une période de réflexion, c'est qu'il y a quand même un loup.
Moi, je voudrais un scénario. Sinon, scénario mercato. Julien Stéphane, attention, il est très exigeant sur le mercato. Il était à Rennes, il était à Strasbourg. Donc, non, mais là,
Julien Stéphane, il n'a pas travaillé depuis un moment. Mon avis, il va être moins exigeant.
Attends. Le mercato, il va arriver. Il va dire, j'ai un problème en défense. Il me faut un défenseur. Moi, je veux celui-là. Ou celui-là. Et on va lui dire, ah, non, c'est pas possible. Moi, par contre, je te ramène celui-là. Qu'est-ce qu'il fait, Julien Stéphane?
Mais il va rien faire. Il va rien faire.
Ah bon? Bah, moi, je te dis, il va appeler qui? Il va appeler François Pinault.
Non, je suis pas sûr.
Qui l'a mis en place?
J'ai un problème avec François Pinault.
Peu importe que l'entraîneur soit en lien direct. C'est normal que l'entraîneur soit en lien avec l'actionnaire. Mais
aujourd'hui, dans toute société normalement constituée, dans toute entreprise, c'est comme ça. Tu zappes pas ton N+1 pour aller au N+2.
Joseph Gourlion,
non, mais il a pas zappé. Il a été recruté par le N. 0.
Plus 2, et le N+1 dit, ah bah, c'était pas mon choix. Ah bah ouais, super.
C'est Joseph Ougourlian qui l'a dit ici même.
Exactement. Excellent exemple.
Que jamais il allait parler ni avec les directeurs sportifs, ni avec les joueurs.
Oui, mais parce que
c'est pas son métier.
Oui, mais attention, c'est pas.
C'est le même profil. Hein,
oui, mais l'actionnaire de Rennes.
François Pinault.
Si, on est d'accord que si Florent Maurice est là, en tout cas pour l'instant, s'il est là, c'est que l'actionnaire, comme l'a dit Florent Maurice, a souhaité garder son directeur sportif. Malgré qu'il ait choisi un entraîneur qui n'était pas le favori de son directeur sportif.
Il y a un problème, non? Non, mais il n'y a pas de problème.
Ça.
Quand même.
Non, mais
c'est. Parce que là, si tu nommes des gens.
Allez, mais
pourquoi tu t'occupes du sportif?
Parce que tu crois que c'est Ribalta qui choisit l'entraîneur de Marseille?
Après, Kevin.
Est-ce que tu penses que c'est Ribalta qui choisit l'entraîneur de Marseille ou est-ce que c'est Longoria? Est-ce que tu penses que c'est.
C'est Longoria qui a recruté Ribalta, c'est pas McCourt.
Mais d'accord.
Non, mais tu peux le faire aussi de concert.
C'est pas McCourt qui appelle.
Tu peux le faire de concert et dire.
Il parle pas avec. Il était dans les clous, c'était pas sa priorité.
Après concertation avec François Pinault, nous avons choisi Julien Stéphane.
McCourt, il parle pas avec Gattuso. Tu vois, il va pas envoyer des messages à Gattuso.
Au contraire.
On verra à l'usage, on verra qui a raison.
Tu tentais que l'OM soit un modèle en matière de gestion.
Les deux peuvent marcher, les deux peuvent échouer. Il y a des fois des directeurs sportifs qui choisissent leur entraîneur, ça marche pas. Il y en a d'autres qui le choisissent pas et ça marche. Faut voir après, est-ce que les gens peuvent travailler en bonne intelligence? Le seul patron du club, c'est Pinault. Et François Pinault, il a choisi un entraîneur, certes, mais il a aussi choisi de garder son directeur sportif ou de lui demander de rester. Après, c'est à son directeur sportif et à son entraîneur de travailler en bonne intelligence pour que, de toute façon, c'est ce que je dis moi pour mon club et c'est ce que je dirais pour le Stade Rennais. Il n'y a qu'une seule personne qui compte dans un club et elle est morale c'est le club en lui-même. Oui, c'est tout.
C'est la haute performance, là. Là
merci, Valentin.
C'est les détails.
Merci, les gars. Bonne soirée.
Salut,
bonne
Valentin. Soirée, à bientôt. C'est dans le domaine de la haute performance. Tu peux pas avoir de micro désaccords qui vont se transformer en...
T'auras toujours des micro désaccords. Même avec un entraîneur qui l'a choisi comme Genesio.
Bien sûr, mais on a vu le cas à Nice pendant 3 saisons d'affilée. Ça a été mauvais. Et le jour où tout le monde est aligné, bah, regarde où est Nice maintenant.
Dans un instant, Vincent Labrune devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Ça a moyennement plu à certains députés. Thibault a écouté. Il veut en parler. La gestion Labrune, plus globalement également, sera sur la table de l'after avant l'actu du jour, le football des nations et encore plein de choses dans l'after. Tiens, le retour du Top Mytho ce soir. On a une petite entrée dans quelques minutes. Une petite entrée surprise. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.